Louis Gouget, en marge du Phédon. Pourquoi Socrate s'était-il marié? Mystérieuse question que les disciples du maître, Xénophon et Platon, n'ont point élucidée. La solitude pesait-elle au grand philosophe? Répugnait-il aux cuisines indigestes des restaurants d'Athènes? Nous ferons 100 hypothèses sans contrer la bonne. Le fait est qu'il s'est marié et que cela ne lui avait point réussi. Non que Xanthippe, sa légitime épouse, fût légère, non qu'elle aimât les plaisirs, non qu'elle fût ignorante des choses domestiques, rien de tout cela. La débauche n'était pas son fait, et pour cause, car elle n'était pas jolie. Les futilités et la bagatelle ne lui laissaient pas tourner la tête, bien loin. Elle avait les plus solides et appréciables vertus ménagères, et je pense qu'elle en lui fait le bonheur de quelques sycophantes de la rue des Caresses, ou de quelque magister Aouis de Pirée. Mais uni à un philosophe, c'était abominable. Tandis que lui, tout esprit et toute pensée, se hâtait vers l'éther et prenait son haut, son vol, elle, tout intérêt et toute matière, enchaînait son âme à l'office. Ménage discordant s'il en fut, jamais. Socrate étudiait, plongé dans une longue méditation, les problèmes ardus de la morale. Xanthippe surgissait, rageuse, lui reprochait sa paresse, et qui ne sait pas gagner les drachmes et les oboles. C'est que cette femme était pingre d'une pingrerie dont Plaute lui-même n'eut pas idée. Vice chez elle d'autant plus singulier que, sans être riche, Socrate avait quelques biens et pouvait recourir aux besoins à la bourse de ses disciples. Mais Xanthippe ne rassasiait point. Comme certaines femmes modernes, elle considérait le mari non pas comme un être vivant, souffrant et pensant, mais comme une mécanique dressée à peiner dur pour remplir la caisse. Elle estimait les talents, non le talent. Aussi faisait-elle assez peu de cas de son philosophe que les siècles ont fait un dieu. Elle lui préférait les Héliastes crottés qui relevaient leur toge, couraient à l'aéropage s'occuper d'une maigre chicane et rapportaient ensuite quelques monnaies au logis. Les querelles d'intérieur étaient fréquentes. Au début, Socrate s'exaspérait. Il était homme et fort chatouilleux, mais peu à peu, il s'apaisa, pratiqua avant la lecture la maxime des Soriciens, s'abstenir ou supporter. Il s'abstint, il supporta. Devenu de marbre, il ne haussait même pas les épaules. Au premier gros mot, il s'échappait, gagnait la rue, vagabondait à travers Athènes. On le vit s'attarder sur le Pirée, en conversation grave avec des matelots, dont il préférait la laine aliacée aux aigres mots de Xanthippe, qui troublait son démon familier. Et le jour où il reçut par la tête la fameuse douche historique, il dit « Petite pluie à bas grand vent !» Et il n'en fut rien d'autre. Un point tout de même le chagrinait. C'était l'espèce de haine stupide que Xanthippe professait pour ses disciples les plus aimés. « Que vient faire ici cet aristocrate qui me regarde de haut avec son sourire figé ?» C'était de Xénophon qu'elle parlait ainsi. À la fin, cet homme aux larges épaules, c'était Platon, me vient bien encombrant. Ah, je ne puis plus supporter ce raisonneur subtil et ironique, c'était Criton. Il m'assomme. Le pauvre Socrate en était navré, de honte, et s'excusait auprès de ses disciples qu'il chérissait comme des enfants. Ainsi s'explique-t-on la mélancolie profonde de la réponse qu'il fit un jour à ceux qui lui reprochaient de bâtir une maison trop petite. Plutôt Dieu qu'elle fût pleine de bons amis, soit irréalisable. Xanthippe aurait bien vite fait de vider la maison. Au contraire, elle semblait avoir des complaisances singulières pour les ennemis mortels de son malheureux époux. Elle les vantait à tout propos. Quelle écriture, disait-elle. Des comédies comme Aristophane, voilà un homme d'esprit, un homme populaire et qui gagne tout ce qu'il veut. Socrate aurait pu lui répondre que tout le monde n'a point le tempérament de flatter les passions populaires pour en tirer profit, et qu'au surplus, il est plus digne de raisonner sur l'essence divine que de narguer grossièrement les immortels. Peine perdue, Xanthippe n'aurait pas compris. Il se taisait donc et faisait, grâce à son épouse, l'apprentissage de la douleur. Il s'affinait l'esprit et le cœur. Méditait avec plus de fruit que s'il eût été heureux. Et en somme, l'acariâtre Xanthippe ne lui nuisit point. Loin de là, elle lui inspira à son insu les paroles les plus altières et ses plus énergiques résolutions. Accusé d'avoir corrompu la jeunesse, les juges lui dirent « Choisissez votre supplice. »« La peine que je mérite, répondit-il, avec fierté, c'est d'être nourri aux Britannées et aux frais de la République. » Voulait-il, par cette réponse d'allure arrogante, braver les juges? Non, point. Mais il espérait, en sa requête, qu'il esquiverait pour toujours la table conjugale. On se rappelle aussi qu'il refusa de sortir de prison et évoqua aux yeux de Criton médusé les lois de la République qu'il aurait arrêté sur le seuil. Socrate, mais que vas-tu faire? L'action que tu prépares sera-t-elle pas à renverser autant qu'il est en toi et en nous, l'État tout entier? Car quel État peut subsister où les jugements rendus n'ont aucune force et sont foulé aux pieds par les particuliers. Bouddha sagesse va-t-elle jusqu'à ne pas savoir que la patrie a plus droit à nos respects et à nos hommages, qu'elle est plus auguste et plus sainte devant les dieux et les hommes sages, qu'un père, qu'une mère et que tous les dieux, etc., etc. Tout cela est magnifique, mais au fond, ce n'était pas la patrie, ni la République, ni les lois qu'il voyait sur le seuil, mais la figure chicanière de Xantippe. Et plutôt que de rentrer dans l'enfer de son ménage, il préféra rester paisible dans les fers. Il y mourut. Condamné à boire la ciguë, il ne protesta pas, mais il réunit ses amis les plus chers pour leur dire un dernier et sublime adieu. Ils étaient là, ravis et désespérés, encore sous le charme de sa réconfortante parole, aux portes de la mort. Il venait d'affirmer l'immortalité de l'âme. Il avait chanté l'harmonie des lyres, et comme le cygne qui se pleure, il s'unissait par l'extase à la divinité. Les accents merveilleux et inouïs résonnaient encore sous les voûtes, et on était comme imprégné, l'air en était comme imprégné. C'était l'instant du recueillement doux, et ses disciples, saisis de frissons et de l'au-delà, s'attendaient à voir l'âme du maître s'évader, s'envoler, radieuse, vers les cimes éternelles. Et tout à coup, Xantippe entre en coup de vent, les cheveux épars, sans souci des disciples, elle va droit à Socrate et l'interpelle en ces termes. « Ô Socrate, voici donc la dernière fois que tu vois ces gens-là. Je l'avais bien prédit que tu en arriverais là avec les songes creux. Que ne m'as-tu écouté? De quoi t'ont servi tes chimères? N'aurais-tu pas mieux fait de t'occuper de ta maison et de gagner quelque argent au lieu de... » Et l'on lui dit bien davantage, mais Socrate l'arrêta. « Pourtant, dit-il doucement, la divinité est une et l'âme est immortelle. Qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Des idées, mais que doit faire des idées? Me moque des idées, moi. » Mami, répondit brusquement Socrate, laissez-moi finir en paix. Veillez seulement, sitôt que j'aurai fermé les yeux, à sacrifier un coq à Esculape. « À quoi bon, puisque vous êtes certain de mourir, sacrifier un coq au dieu des médecins? C'est encore une dépense superflue. C'est bien à vous, cela. Non, je ne sacrifierai rien. Tenez-vous le pour dit. » Les disciples suffoquaient de surprise. Ces messes méprisants faisaient la moue. Salissas, grave, doux, mélancolique, haussait les épaules. Criton, qui avait le sens aigu du comique, se mordait les lèvres. La bouche divine de Socrate frémit d'indignation. Il fut sur le point d'articuler des paroles regrettables. Sacré cham... Mais il n'acheva pas. Estimant superflu, autant qu'opportun, d'évoquer en cet instant solennel, la figure disgracieuse, quoique si profondément humaine, du fameux quadrupède égyptiaque. Il retomba donc sur sa couche et soupira. Un peu à l'écart, se tenait l'homme qui portait la ciguë. Il demeurait debout, pensif, suffisamment apitoyé, mais sépulcral, sculptural. L'aiguillère d'argent gracieusement posée sur l'épaule, semblable à un coéphore. Socrate, d'un geste vague, les yeux languissants, lui tendit sa coupe. « Redonne-moi encore un peu, ami, » dit-il. Il but, se leva, se tira, sentit ses jambes s'apesantir, puis s'étendit à nouveau en soupirant, et il expira. Incontinent, les disciples émus jusqu'aux larmes couvrirent leur visage de leur manteau. Xanthippe bondit sur le cadavre, chercha la ceinture et soupesa la bourse, et constata qu'elle était vide, et dit hargneuse, rageuse, « Parbleu, je m'en doutais, il n'avait plus le sou !» Puis, maugréant, elle gagna la porte. En vérité, je vous le dis, voilà ce qui se passa à l'heure dernière du plus illustre, du plus sage et du plus juste des hommes. Volontairement, Platon a omis certains détails. C'est qu'il n'était d'Athènes, il était galant homme, et sacrifiait l'histoire vraie à la courtoisie pour les dames.